Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur notre site internet l'ensemble de nos podcasts ainsi que notre numéro actuellement en kiosque intitulé « Guerre et paix dans le cyber ». Aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde, un pays dont on parle de plus en plus mais dont l'histoire ancienne et récente reste finalement assez mal connue. Ancien joyau de la couronne de l'Empire britannique, pays du Mahatma Gandhi et des millions de dieux du panthéon hindou, frère ennemi du Pakistan, géant démographique et rival régional de la Chine, l'Inde, c'est aussi le pays de tous les défis, de la misère et d'une diversité culturelle, linguistique, à donner le tournis. Pour évoquer ce pays complexe et fascinant, je reçois aujourd'hui Gilles Bocquera. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes historien spécialiste de l'Asie du Sud contemporaine et chercheur associé à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez été chercheur au Centre de Sciences Humaines à New Delhi et résident à l'Institute of Strategic Studies d'Islamabad. Et vous venez de publier « L'Inde d'aujourd'hui en 100 questions » aux éditions Talendier. Alors, nos éditeurs se souviennent peut-être de votre ouvrage précédent « Le Pakistan en 100 questions » paru en 2018, pour lequel vous étiez déjà venu au micro de Conflit. Dans l'Inde d'aujourd'hui en 100 questions, vous abordez des sujets très variés qui balayent l'histoire, l'économie, la société, la culture indienne. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous interroger plus particulièrement sur la puissance indienne, la réalité de sa puissance économique et géopolitique. Et pour commencer, la première question que j'aimerais vous poser concerne l'unité de l'Inde. Vous l'évoquez au début de votre ouvrage. Au lendemain de l'indépendance, personne n'aurait parié une seule seconde sur la viabilité de ce nouvel État, devant l'immense diversité de ses peuples, de ses langues, de sa géographie et de ses religions. Alors, comment expliquez-vous que cette unité indienne ait été maintenue et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette unité indienne se maintient ?
L'unité indienne s'est maintenue d'abord parce que l'Inde a su garder un cadre démocratique, ce qui a permis un peu de dégonfler les tensions, notamment sur les régions périphériques, notamment au nord-est de l'Inde, où il y a eu des mouvements sécessionnistes au cours de l'histoire, également au Punjab, d'ailleurs, dans les années 80. Donc c'est un recours régulier. Hein. Je rappelle qu'en 2019, l'Inde a connu ses 17e élections législatives au niveau national. L'espace d'expression démocratique a été uniquement interrompu du temps de l'état d'urgence imposé par Indira Gandhi entre 75 et 77. Donc c'est un peu cette habitude de recourir au pluralisme démocratique finalement et recours aux élections qui a permis de dégonfler les situations de tension que le pays a pu connaître depuis sa création en 1947.
Alors revenons peut-être justement à cette période du lendemain de l'indépendance. Peu de gens le savent, mais les premiers gouvernements indiens, notamment sous Nehru puis sous sa fille, ont été socialistes.
Oui, tout à fait. Faut savoir que Jawaharlal Nehru, donc, qui a été le premier ministre indien de 1947 à 1964 et qui à ce jour est celui qui est resté au pouvoir le plus longtemps en Inde, avait une certaine fascination pour le socialisme fabien du fait de ses études en Grande-Bretagne. Et fascination aussi d'une certaine façon pour le modèle soviétique de planification. On a observé en Inde que finalement ça avait permis à l'Asie centrale qui avait un retard de développement comparable à celui de l'Inde de s'industrialiser et d'avoir des progrès socio-économiques non négligeables. Donc il y avait un peu cet attrait pour la planification qui sera mise en place peu après l'indépendance. Le premier plan quinquennal, c'est 1951. Ça s'est traduit aussi par le fait qu'on s'est dirigé vers des nationalisations. La priorité après l'indépendance était notamment de développer l'industrie lourde parce que le pays ne voulait être le moins dépendant possible, sortant de la colonisation, voulait être le moins dépendant possible vis-à-vis de l'étranger. Et ça s'est traduit par le fait de la recherche d'une autonomie économique, d'une faible ouverture aux capitaux étrangers, si ce n'est par le recours à l'aide étrangère, mais moins aux investissements directs étrangers. effectivement, on a eu une économie plutôt tournée vers elle, vers le marché intérieur, ce qui fait qu'au début des années 90, avant le virage économique de l'industrialisation, l'essentiel de la production des biens de consommation, notamment, était réalisé en Inde et avec un très peu de recours au commerce international, si ce n'est pour certains biens de production.
Quels sont les résultats de cette politique économique ? Est-ce qu'ils sont désastreux ? Est-ce qu'ils sont à tempérer ?
Ben écoutez, il y a le fameux taux de croissance hindou, Hindu rate of growth, qui fait qu'on observait que de 1947 à 1990, on avait eu un développement moyen tournant autour de 3,5% de croissance économique annuelle. Mais on s'est aperçu qu'au début des années 90, encore une fois, faut remettre ça dans le contexte historique de l'époque, hein, c'est la fin de la guerre froide, donc la dissolution de l'Union soviétique, qui avait joué un rôle important dans la politique extérieure indienne. C'était la montée en puissance du libéralisme, et on s'est aperçu que l'Inde devait changer de modèle économique pour essayer de justement générer cette puissance économique indienne dont vous parliez tout à l'heure, qui était encore relativement absente au niveau international. Alors ça a pris trois formes essentiellement, hein. Ça a pris la forme de la privatisation, et encore une fois cette année, ou c'était en 2020, Narendra Modi a dit qu'il fallait accélérer le processus de privatisation. Ça a pris la forme de la libéralisation économique, hein. Faut voir que le secteur industriel indien était très réglementé, ce qu'on a appelé le license Raj, c'est-à-dire que pour développer l'industrie, c'était l'État qui fixait le lieu de production, la quantité de produits fabriqués par an. Enfin, c'était un problème très 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 lourd d'autorisation gouvernementale pour lancer une industrie et la faire tourner.
Il y avait un vrai rôle directeur de l'État, une qualification économique.
Néanmoins, a toujours gardé un secteur privé non négligeable. Hein. C'était pas une économie totalement étatisée, loin de là. Avec des grands groupes indiens, hein, le fameux groupe Tata, par exemple, le groupe Birla, qui sont encore très, très connus aujourd'hui. Troisième axe du virage économique, c'est aussi la globalisation. Hein. Tout d'un coup, on faisait appel aux capitaux directs étrangers, aux investissements directs étrangers, ce qui n'était pas forcément, qui n'était vraiment pas le cas précédemment. Juste un exemple, à la fin des 70, il faut savoir qu'IBM et Coca-Cola ont été, entre guillemets, virés du marché indien.
Oui. Alors, juste pour revenir un petit peu avant cette phase de libéralisation qui commence en gros dans les années 90, vous évoquez, c'est une question très intéressante que vous évoquez dans votre ouvrage, vous parlez du naxalisme, qui sont des mouvements plus ou moins communistes qui ont eu lieu dans le Bengale occidental et dans le Kerala. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va dans ces régions, on peut être assez surpris de tomber sur des places Lénine ou des places Staline, de découvrir des mouvements ouvriers dont les emblèmes sont la faucille et le marteau. On a l'impression de retomber un peu dans l'époque soviétique. Et c'est vrai que les mouvements communistes ont été assez prospères dans certaines régions de l'Inde. Et est-ce que l'Inde a failli être communiste un jour et quel est le poids de ces mouvements communistes aujourd'hui ?
Oui, faut rappeler que un des premiers États, enfin c'était un État de l'Union indienne, permettre d'accéder à des communistes au pouvoir à travers le monde, c'était au Kerala, en 1957, à l'issue d'élections pluralistes, démocratiques, libres, transparentes. Et effectivement, il faut rappeler aussi qu'au Bengale occidental, les communistes ont été au pouvoir pendant une trentaine d'années. Un autre État, il y a trois États qui ont été dirigés par les communistes en Inde, c'est le Kerala, et actuellement d'ailleurs c'est un premier ministre communiste qui dirige cet État. Donc c'est le Kerala, le Bengale occidental et aussi le petit État du Tripura au nord-est de l'Inde. Donc il y a eu vraiment un mouvement communiste fort, important, Mais il n'y a jamais eu vraiment de perspective d'une accession d'un Premier ministre au niveau national communiste. Ça a été évoqué à un moment au milieu des années 90, quand il y a eu une certaine instabilité gouvernementale, et on a parlé d'un mouvement de coalition qui pourrait être dirigé par un dirigeant, Jyoti Basu, qui était à l'époque ministre en chef du Bengale occidental. On observe qu'aujourd'hui, le mouvement communiste et le poids des communistes est en recul, fortement. Donc, il a quasiment disparu, voire totalement disparu au niveau national, au niveau du Parlement national. Mais vous évoquiez tout à l'heure le mouvement nationaliste, c'est un mouvement en fait radical qui a émergé à la fin des années 60 au nord du Bengale occidental, qui aujourd'hui perdure dans certaines poches, dans l'épine dorsale de l'Inde, dans une épine forestière qui traverse l'Inde du nord au sud, l'Inde centrale du nord au sud, où il y a encore effectivement des poches natsalites, dans des régions essentiellement tribales. Hein. Non, c'est pas un mouvement urbain. On parlait de la fin des années 60, et la fin des années 60, c'était un mouvement plutôt natsalite urbain, par des jeunes étudiants qui trouvaient leur inspiration dans le maoïsme chinois. Mais ce mouvement natsaliste, donc, il perdure encore dans des poches éloignées des grands centres urbains aujourd'hui en Inde, vivote, disons. Hein. On ne peut pas dire qu'il représente une menace réelle sur la stabilité au niveau national ou même au niveau des États de l'Union indienne.
D'accord. Alors, avant de parler définitivement parler de la libéralisation de l'économie indienne, peut-être une dernière question sur Indira Gandhi, qui est vraiment une des grandes figures de la politique contemporaine indienne. On la compare très souvent à Thatcher, on l'appelle l'Iron Lady of India, la Dame de Fer de l'Inde, alors que finalement, elle est socialiste dans sa manière de faire de la politique et de faire de l'économie politique, contrairement à Thatcher, qui est une ultra-libérale. Vous évoquez dans un chapitre aussi très intéressant une tentative autoritaire, presque une tentative de dictature, question à laquelle vous répondez. Est-ce qu'il y a vraiment eu une tentative de prise de pouvoir dictatoriale par Indira Gandhi?
Bon, faut déjà rappeler que Indira Gandhi est donc la fille de Jawaharlal Nehru, c'est important de le signaler. Elle s'appelle Gandhi parce qu'elle avait épousé à un moment Feroz Gandhi, de son nom de famille. Mais c'est bien la fille de Jawaharlal Nehru qui accède au pouvoir donc en 1966, hein, pas directement après la mort de son père en 64. Il y a eu Lal Bahadur Shastri mort brutalement à la conférence de Tashkent en janvier 66. Donc Indira Gandhi arrive au pouvoir en 66, mise en avant notamment par les caciques du Parti du Congrès, parce qu'on s'est dit, ils disaient à l'époque, on va pouvoir la manipuler, c'est une femme fragile, c'est pas du tout passé comme ça, au contraire, au point qu'au début des années 70, on a un slogan qui fait fureur, c'est que c'est Indira is India, India is Indira. Donc c'est une femme qui s'affirme, effectivement, développant notamment une politique de gauche, renforçant l'emprise de l'État sur l'économie, notamment au tournant des 70 avec la nationalisation des banques, du secteur de l'assurance notamment. Et en plus, le début des 70, c'est son hors-de-gloire. Hein. C'est la victoire contre les Pakistanais, la création à l'occasion du troisième conflit indo-pakistanais en 71, c'est autour de la création d'un État au Pakistan oriental où l'Inde aide les nationalistes bengalis qui veulent se débarrasser de la tutelle du Pakistan occidental. Je rappelle que lorsque le Pakistan voit le jour en 1947, il est divisé en deux, entre un Pakistan occidental et un Pakistan oriental, séparé par 1500 km de territoire indien. Les nationalistes bengalis au Pakistan oriental se soulèvent en 71, sont aidés par les Indiens en sous-main d'abord et par intervention de l'armée indienne en décembre 1971 et en 15 jours c'est réglé, l'armée pakistanaise capitule et ce qui entraîne la création du Bangladesh. Donc c'est une histoire énorme, claire et nette cette fois-ci contre le Pakistan. Et c'est évidemment l'apogée d'Indira Gandhi. Alors vous parliez de la tentative dérive dictatoriale d'Indira Gandhi. C'est vrai qu'en fin juin 1975, elle impose l'état d'urgence. Les opposants politiques sont arrêtés, plusieurs sont mis en prison. Il y a une censure qui se met en place. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Indira Gandhi, en mars 77, même pas deux ans plus tard, sort de cet passage entre guillemets dictatorial par des élections libres et pluralistes. Les opposants politiques sont libérés avant les élections et elle perd ses élections. Donc c'est intéressant de voir comme quoi il y a une réelle résilience démocratique en Inde, c'est que ces dérives dictatoriales, encore une fois, ne durent pas. Et Indira Gandhi elle-même veut en sortir. Bon, effectivement, on peut effectivement estimer qu'elle ne pensait pas perdre les élections. Mais bon, elle perd les élections, elle quitte le pouvoir. Très peu de temps d'ailleurs qu'elle revient au pouvoir en janvier 1980. La coalition qui avait réussi à défaire Indira Gandhi, qui allait de la gauche aux nationalistes hindous, d'ailleurs, qui sont actuellement au pouvoir, fait que le pays devient ingouvernable, du fait des tensions qui pouvaient exister dans cette coalition très très hétéroclite.
Alors juste après Indira Gandhi, enfin un peu après, son fils Rajiv Gandhi prendra le pouvoir et c'est à partir de son mandat qu'on peut parler de libéralisation de l'économie. Et aux prémices de cette libéralisation de l'économie, on retrouve un épisode connu aussi de l'histoire économique indienne qui s'appelle la Révolution verte et qui fera de l'Inde un grand producteur mondial de riz, de blé, de lait, alors même qu'il était auparavant dépendant de l'aide alimentaire d'organisations internationales. Qu'est-ce que c'est précisément que cette révolution verte, Gilles Bocara?
Oui, alors là, faut encore ouvrir une page historique. Faut voir qu'au milieu des années 60, l'Inde est menacée par la famine. Et on se dit comment faire pour sortir de cette situation sans recourir à ce qui se passe effectivement au milieu des années 60. L'Inde est sauvée de la famine, en fait, par des recours massifs à l'importation de surplus américains. Faut savoir que depuis le milieu des années 50, il y a l'Inde recourt à des importations de céréales américaines dans le cadre de ce qu'on appelle la Public Law 480, la PL480, qui permet de se procurer un surplus américain. D'ailleurs, l'aide américaine, durant cette période, finalement plus alimentaire qu'elle en directement vers le développement industriel des pays, qui passe plutôt par l'aide soviétique. Donc, au milieu des 60, on se dit qu'il faut faire sortir de cette situation de dépendance aux importations céréalières étrangères. Il faut savoir qu'à l'époque, le pays connaît une croissance démographique relativement élevée. Donc on va recourir à des semences, à une variété de semences, et deuxième point important, c'est que variété de semences qui vient de l'étranger, pour vraiment qu'elle soit fructueuse, faut qu'elle soit utilisée sur des régions bien irriguées. Et ces régions bien irriguées, c'est à l'époque, c'est surtout le Punjab et l'Haryana, là où il y a des grands fleuves qui traversent ces régions et qui avaient aussi bénéficié de la politique de mise en de construction de canaux durant la condition britannique.
Donc le Punjab à la frontière avec le Pakistan.
Ouais, absolument. Donc c'est ce qui devient le grenier, le Haryana aussi, qui est juste au sud du Punjab, entre Delhi et le Punjab, qui devient le crânier à céréales du pays. Et c'est aussi pourquoi aujourd'hui on a des manifestations de fermiers qui sont essentiellement centrées sur ces deux États de l'Union indienne, le Punjab et l'Haryana. Mais très rapidement, cette révolution verte donne des résultats probants, vu qu'à partir du début 70, l'Inde devient autosuffisante en matière de céréalière. Et aujourd'hui, l'Inde dispose de stocks de céréales très importants, bien au-delà de ce qui est jugé utile comme une réserve stratégique. Et ce qui pose d'ailleurs un problème à l'État indien, c'est que ce qui a d'ailleurs généré un peu toute la réforme agricole dont on parle actuellement, c'est que faire de ces stocks. Et ces stocks ont été encore une fois rendus possibles parce que au milieu des 60, il y a eu cette politique, on a dit, d'achat assuré des récoltes. Ce sur quoi d'ailleurs le gouvernement Modi actuellement veut revenir. Voilà.
Alors après, dans les années 90, on a un homme très important pour l'histoire économique indienne qui s'appelle Manmohan Singh, qui sera d'abord ministre des Finances, puis Premier ministre entre 2004 et 2014, juste avant Narendra Modi. Les chiffres que vous évoquez dans votre ouvrage, qui sont la conséquence des politiques de libéralisation économique, sont très impressionnants. Hausse du taux de croissance jusqu'à 7% dans les années 2000, PIB multiplié par 10 depuis 1990, on gagne 9 années d'espérance de vie entre 92 et 2020, l'accès à l'électricité est généralisé, 50 licornes en Inde, etc., etc. Est-ce que cette dynamique de progression économique, d'émergence très rapide sur la scène internationale parmi les plus grands PIB mondiaux, elle perdure aujourd'hui?
Oui, il faut savoir qu'effectivement, je parlais tout à l'heure du taux de croissance hindou de 3,5%. Dans les années 90, on passe d'une croissance annuelle moyenne à 5,6, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et à 6,8 dans les années 2000-2010, avec des taux de croissance annuels des fois qui tournent autour de 8%. Donc c'est une progression impressionnante, ça s'est un peu tassé depuis ces 5-6 dernières années. On est plutôt autour de 5 à 6% avant même la crise du Covid, évidemment, qui a entraîné un recul important de la croissance économique du pays. C'est vrai qu'un facteur intéressant à observer, c'est que maintenant, des entreprises indiennes commencent à être connues à l'étranger et à s'exporter, en fait. Il y a le cas symbolique, effectivement, du rachat au début du millénaire des entreprises Lipton, par exemple. C'était symbolique des grandes entreprises britanniques. Il y a eu Land Rover aussi qui a été racheté par Tata, si je ne me trompe pas. Donc, un petit exemple, encore une fois, c'est que la Ligue 2 de football professionnel actuelle est sponsorisée par une société indienne, une société de pneumatiques industrielles, c'est BKT. C'est pour dire que l'Inde, qui était pays plutôt replié sur lui-même, sur le marché intérieur, des entreprises indiennes qui se développaient pendant les 50 années qui ont suivi l'indépendance du pays, surtout vivaient du marché intérieur. Aujourd'hui, cherche à s'exporter et à gagner des parts de marché et des contrats à l'extérieur. Ça, c'est un développement effectivement très intéressant à observer et qui marque une rupture, par exemple, à ce qu'était l'Inde avant les années 90. Voilà, donc c'est encore une fois cette ouverture sur l'étranger, ça a été évidemment marqué par le fameux secteur informatique indien, qui a été le fer de lance de l'expertise indienne, d'ailleurs, dans des secteurs pointus, hein, qui ne s'arrêtent pas d'ailleurs seulement à l'informatique. Faut savoir que l'Inde émerge de plus en plus comme une puissance aussi spatiale. C'est une question que j'aborde dans une question d'ailleurs traitée dans le livre dont vous avez parlé.
Ils ont leur propre lanceur de satellites, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ils ont des programmes d'exploration aussi, d'envoyer un orbiteur autour de Mars. Enfin, il y a des choses qui se passent. C'est intéressant d'ailleurs d'observer que l'Inde devient une puissance spatiale, mais reste assez faible au niveau du secteur aéronautique, secteur aéronautique civil, même militaire d'ailleurs. Encore une fois, ça reste pourquoi l'Inde a ces dernières années, pour ses avions de combat, s'est tournée vers le Rafale.
Et le secteur informatique, donc, qui est très impressionnant en Inde, concentré autour de Bangalore, dans la Silicon Valley indienne, il est aussi connu pour avoir donné des grands dirigeants dans les boîtes de la tech américaine. On pense notamment à certains PDG indiens chez Google et chez d'autres entreprises. Est-ce que c'est une manière pour moi de vous poser une question sur la diaspora indienne? Comment est-elle répartie? Est-elle puissante, influente? Est-ce qu'elle est un instrument de pouvoir pour le gouvernement indien?
Oui, absolument. Alors, ce qui est intéressant, il y a une nette évolution vis-à-vis de cette population indienne et étrangère. Au niveau mondial, c'est la première communauté étrangère installée à l'étranger. On estime que ce qu'on appelle les People of Indian Origin, les PIO, c'est 18 millions d'habitants, auxquels faut ajouter 13 millions de ce qu'on appelle NRI, les Non-Resident Indians, qui sont des Indiens qui sont installés à l'étranger, mais qui n'ont pas pris la nationalité du pays dans lequel ils vivent. Donc ça fait un total 31 millions d'habitants, c'est très important. Population qui est un peu délaissée, hein. C'est vrai que quand l'Inde est détournée sur elle-même, elle s'est pas tellement intéressée à ces populations qui, comme relais d'influence, par exemple. Ça a surtout émergé au début des années 2000 qu'on a commencé à vouloir vraiment comptabiliser même cette population. Il y a un rapport qui a été rendu en 2001 à la demande du gouvernement Vajpayee à l'époque. Donc on a commencé à s'intéresser à et en quoi cette population pouvait pas être seulement une fuite de cerveau, pas un brain drain, mais devenir un brain gain, un gain de cerveau en fait. Sachant encore une fois, donc cette population, il y a une population qui s'est implantée notamment dans le Golfe dans les années 70, après le boom pétrolier dans le Golfe. Bon, qui n'était pas une population très 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 qualifiée finalement, mais là-dessus, à partir des années 60, mais un peu avant, et surtout à partir des années 70-80, il y a eu un mouvement intéressant à observer d'ailleurs, parce que autant par exemple pour un pays comme le Pakistan, la communauté expatriée qualifiée se trouve surtout en Grande-Bretagne, hein. En Inde, on est passé directement aux États-Unis, on passait d'une col bleu finalement qui allait faire fortune en Grande-Bretagne, maintenant c'est surtout les États-Unis. Dans les quartiers résidentiels, par exemple des grandes villes indiennes, il n'y a pas une famille qui souvent n'a pas quelqu'un, un membre de la famille qui s'est installé aux États-Unis. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, la communauté indienne aux États-Unis est la communauté étrangère la plus aisée. Hein. Ingénieur, docteur... Et qui aujourd'hui, même dans la vie politique américaine, hein, qui fait que aujourd'hui il y a une volonté de s'appuyer sur cette communauté. On a vu à chaque fois que Narendra Modi aux États-Unis, on a organisé des grands rassemblements autour de cette communauté dans des stades. Donc il y a eu vraiment un changement de qui est lié aussi donc à ce tournant de la globalisation au début des années 90. Qui s'accélère ensuite, de vouloir s'appuyer sur cette communauté. Je parlais des États-Unis, un point important aussi, je parlais du Golfe aussi, de cette communauté, on chiffre environ, si je ne me trompe pas, 8 millions d'Indiens qui travaillent dans le Golfe arabique, Golfe persique et péninsule arabique. Il y a aussi une forte communauté indienne, historiquement d'ailleurs, en Asie du Sud-Est. C'est lié au fait que du temps de la colonisation britannique, on s'est appuyé sur, on a fait venir beaucoup de travailleurs, c'est un travail forcé d'ailleurs souvent, notamment des Tamouls, pour aller travailler dans les plantations en Birmanie, en Malaisie,
Sri Lanka,
jusqu'au Fidji même. Hein. Mm. Plantation de canne à sucre, EVA, caoutchouc, etc., de thé en Malaisie. Ce qui fait qu'aujourd'hui à Singapour, d'ailleurs, même au sein de l'aviation du pays, hein, les Indiens ont un poids non négligeable. Et beaucoup d'ailleurs d'entreprises indiennes s'appuient sur Singapour pour se tourner vers le marché régional des îles sud-est.
Alors justement concernant le voisinage de l'Inde, on a souvent cette vision géopolitique de l'Inde d'un pays très isolé, en tout cas régionalement parlant, avec le Pakistan à l'ouest, la Chine au nord, et tous les États qui normalement gravitent autour de l'Inde, comme le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka, qui sont aujourd'hui petit à petit tenus par la dette chinoise. Qu'en est-il du point de vue des échanges économiques? Qui sont les principaux pays partenaires de l'Inde d'un point de vue commercial?
Le principal partenaire commercial de l'Inde, surtout si on ajoute aux chiffres de la Chine continentale ce Hong Kong, c'est précisément la Chine, hein. Surtout pour les exportations. Ce qu'il faut surtout voir, ce qui a été frappant, c'est que la place de la Chine dans le commerce international de l'Inde a explosé sur deux décennies. Très, 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 très rapidement. À l'exportation, l'Occident reste un marché privilégié, les États-Unis notamment, avec lequel l'Inde entretient une balance commerciale bénéficiaire, hein, ce qui n'est pas le cas avec beaucoup de pays. À l'inverse, le commerce entretenu bilatéral avec la Chine est fortement déficitaire pour l'Inde, ce qui pose énormément un problème, surtout quand on connaît les autres facteurs de tension entre l'Inde et la Chine. L'Union européenne est effectivement, forcément un marché important pour l'Inde, un partenaire commercial qui compte. Mais encore une fois, vous parliez de l'Inde aussi, un commerce finalement très très limité avec les pays voisins. Certains pays voisins sont enclavés, hein. Le Bhoutan, le Népal, sont assez indépendants du marché indien pour s'approvisionner en produits, mais aussi en termes de transit, que ça passe par le territoire indien. Mais ce qui embête beaucoup les Indiens, c'est effectivement la place croissante que prend la Chine au niveau d'influence politique, mais au niveau commercial aussi, en termes d'investissement, dans ce que l'Inde considère comme son précaré, c'est-à-dire les États régionaux que sont le Sri Lanka, le Bangladesh, le Bhoutan et le Népal.
Alors justement, sur le Bangladesh, c'est un pays dont on ne parle pas beaucoup, alors qu'il a quand même 160 millions d'habitants, ce qui est énorme. On connaît l'histoire de l'indépendance du Bangladesh soutenue par l'Inde contre le Pakistan actuel. Quelles sont les relations économiques entre l'Inde et le Bangladesh aujourd'hui, sachant qu'il y a aussi aujourd'hui, avec les politiques nationalistes de Modi, des sujets quant à l'émigration musulmane qui vient du Bangladesh? Est-ce que les rapports sont bons? Est-ce que les échanges sont nombreux?
Oui, alors il faut effectivement voir que ce que je rappelais tout à l'heure, que l'Inde est finalement directement responsable dans la création du Bangladesh en soutenant le mouvement indépendantiste en 1971. Pendant longtemps, le Bangladesh a essayé de se détourner de cette emprise indienne. Il faut voir qu'aujourd'hui, le Bangladesh, qui selon Kissinger avait parlé d'un basket case, de panier percé finalement, de pays qui ne s'en sortiraient jamais économiquement, c'est que le Bangladesh affiche une santé économique, évidemment il faut relativiser, hein, mais assez insolente, des taux de croissance autour de 8%, et qui notamment vole des parts de marché dans ces tiers de textile à l'Inde. Les relations entre les deux pays depuis que Sheikh Hasina est au pouvoir au Bangladesh et encore été réélu triomphalement en 2018 sont plutôt bonnes. Donc, ce qui est intéressant à observer, c'est effectivement, à vous parliez de ce facteur de migration bangladeshi, je disais qu'effectivement, que malgré cette croissance économique insolente du Bangladesh, il y a toujours eu cette idée que, selon le terme assez péjoratif d'ailleurs du ministre de l'Intérieur indien actuel, Amit Shah, qui avait parlé de termites en parlant de cette immigration venue du Bangladesh, qui effectivement était une réalité. Hein. C'est vrai que l'État frontalier de l'Assam a connu une forte migration Bangladesh qui a entraîné des fortes tensions dans cet État dans les années 90. Il y a un mouvement étudiant d'ailleurs qui s'était créé contre cette immigration venue du Bangladesh. C'est un facteur d'inquiétude, mais qui a été exploité électoralement à l'époque par le Parti du Congrès en sa faveur. Maintenant, par le parti des nationalistes hindous, le Bharatiya Janata Party, qui a essayé d'en faire un peu d'un épouvantail vocation politique intérieure.
Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le positionnement de la puissance indienne dans la région de l'Asie du Sud. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'évoquer tous ces sujets. J'aimerais surtout revenir avec vous sur le sujet de la puissance indienne en elle-même, puisque finalement, à la fin de votre ouvrage, vous la décrivez aussi comme une puissance fragile, puisqu'elle aura à faire face dans les prochaines décennies, voire dans les prochaines années, à des défis absolument immenses. Et peut-être que nous pouvons évoquer maintenant ces défis. Ils concernent l'eau, évidemment, les ressources hydriques, et également la pollution des sols, la pollution de l'air, évidemment, 21 des villes parmi les 30 villes les plus polluées au monde sont indiennes, et peut-être d'autres sujets aussi sur la démographie qu'on évoquera après. Mais d'abord sur ce sujet de l'eau et de la pollution.
Oui, effectivement, faut savoir que par exemple l'accès à l'eau par habitant, par tête d'habitant, en Inde depuis la création en 47 du pays, a été divisé par 4. C'est pas un problème unique à l'Inde, hein, c'est par 5 au Pakistan. Du fait effectivement de cette croissance démographique et heureusement du développement économique des pays. Mais la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, un Indien sur deux est confronté à une situation de stress hydrique et cette situation promet de devenir de plus en plus problématique. C'est généré notamment par le fait que les ressources hydriques sont consommées à 90% par l'agriculture. Hein. On parlait de la révolution verte tout à l'heure. Effectivement, c'est très bien d'avoir parvenu à un niveau d'autosuffisance alimentaire, notamment dans le secteur des céréales. Mais ça s'est fait en pompant allègrement dans les nappes phréatiques du pays, hein, qui ont baissé de façon assez dramatique, et ce qui va pas manquer de créer un problème. Alors, d'autant plus, on baissait d'autant plus que généralement cette consommation d'eau par des pompes hydrauliques est d'autant plus aisée que généralement l'électricité pour les fermiers n'est jamais ou quasiment jamais payée. Donc on n'hésite pas à utiliser allègrement des pompes pour aller pomper de l'eau dans le sous-sol. Mais ça a les implications effectivement à terme extrêmement problématiques sur l'accès à l'eau que pourtant Narendra Modi a promis que d'ici 2024, c'est-à-dire très bientôt, tous les Indiens auront accès à l'eau au robinet. On verra si cette promesse se réalise. Vous parliez de la pollution de l'air, effectivement, c'est un gros problème, ça va bientôt l'être dans quelques semaines, parce que généralement le pic de la pollution, c'est la saison froide, c'est à partir notamment de la mi-novembre. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits. Je me rappelle qu'à la fin des années 90, j'étais en Inde et la Cour suprême avait interdit dans la capitale indienne, avait obligé plutôt les transports publics, les taxis scooters à recourir au gaz comprimé pour comme facteur de combustible. Ça a permis brutalement de réduire le niveau de pollution, mais ça a été de courte durée, parce qu'en parallèle, le trafic automobile en Inde a complètement explosé. Je peux parler de mon expérience personnelle. Il faut savoir qu'à Delhi, au début des années 90, il n'y avait quasiment pas de feu rouge. Il n'y avait pas de feu rouge parce qu'il n'y avait pas de voiture. Évidemment, aujourd'hui, c'est impensable. Les autoponts, les flyovers, hein, ont explosé en Inde. Enfin, il n'y a pas de grande ville indienne qui n'ait pas ces flyovers. Il y a pas. Faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui était quasiment inconnu, le premier métro en Inde, c'était quelque tard dans les années 80. Aujourd'hui, il y a 15 villes indiennes qui ont un métro. Ça s'est développé très très rapidement aussi pour répondre à cette croissance démographique urbaine, à ces problèmes du transport. Mais si le transport public a été développé, notamment le métro, ça empêche que l'augmentation du trafic automobile est telle que, encore une fois, la croissance économique du pays, l'industrialisation du pays fait que... Il faut savoir aussi qu'un facteur important de population, c'est le fait que le secteur des micro, petites et moyennes entreprises en Inde, ce qu'on appelle aussi le secteur informel, hein, le secteur informel de l'économie indienne, c'est 90% de l'économie du pays. C'est très très important, hein. Il y a 64 millions de micro, petites et moyennes entreprises indiennes. Et c'est généralement ces entreprises polluent beaucoup, parce que c'est des petites entreprises, artisanales, et elles n'ont pas vraiment les ressources financières pour investir dans des technologies qui permettraient de réduire la pollution.
Et ces problèmes démographiques, ils vont aller en s'accélérant, parce que vous expliquez très bien que la majeure partie de la population aujourd'hui est jeune, que l'exode rural est toujours une réalité, donc ces populations vont se déplacer vers les villes parfois par centaines de millions. Et ces jeunes, il va falloir les nourrir, les loger, leur trouver du travail. Donc dans les prochaines années, ces problèmes-là vont aller en s'agrandissant.
Oui, absolument. Il faut savoir que tout de même 45% de la population en Inde a moins de 25 ans. 86% à moins de 55 ans. Donc ça va être un autre problème de l'Inde. Parce que c'est un pays qui a tout de même réalisé sa transition démographique. Hein. Le taux de moyen d'enfants par femme, c'est 2,2. Hein. Le taux de remplacement de génération, c'est 2,1. Donc c'est un pays qui a tout de même réalisé sa transition démographique. L'âge moyen, l'âge médian, c'est tout de même presque à 29 ans maintenant. Hein. Il était à 21 ans, je crois, il y a 20-30 ans. Donc c'est une population qui finalement reste jeune, effectivement, et ça fait un problème de fournir un emploi à cette jeunesse qui est de plus en plus qualifiée d'ailleurs, et qui désespère de trouver un travail. C'est vraiment un problème qu'on dirait fréquemment à la presse indienne, c'est que de plus en plus des jeunes gens très qualifiés sont obligés de faire des petits boulots et n'arrivent pas à sortir de ces petits boulots pour avoir des boulots qui correspondent à leur niveau de qualification. Effectivement, c'est un problème. Donc, puis vous parlez des aides rurales, effectivement, aides rurales d'ailleurs, dont on a vu les conséquences malheureuses au moment de la crise du Covid, la première vague du Covid en Inde, hein, c'était au printemps de 2020, quand on a vu ces masses de travailleurs journaliers qui viennent de villages indiens, aller chercher fortune entre guillemets, évidemment, juste obtenir de quoi survivre et pouvoir renvoyer quelques subsides à leur famille restée au village, et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans emploi et qui ont repris le chemin inverse de l'exil, non pas de la campagne vers les villes, mais des villes vers la campagne, abandonnées à eux-mêmes, et cherchant les moyens de rentrer dans leur village, certains en marchant sur plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres.
Eh bien, merci beaucoup Gilles Bocquera pour cette présentation de l'Inde, de sa puissance économique et des enjeux de demain. Je rappelle le titre de votre ouvrage « L'Inde d'aujourd'hui en 100 questions » paru aux éditions Talendier. J'invite enfin nos auditeurs à retrouver les autres podcasts de conflits disponibles gratuitement sur toutes les plateformes, ainsi que notre numéro actuellement en kiosque intitulé « Guerre et paix dans le cyber ». Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt.